France Culture, rue des Écoles, Grand Amphi.
Et c'est le Grand Amphi avec Marie-Caroline Missire. Fin août, la Grande-Bretagne a connu un électrochoc. Une commission indépendante a publié un rapport qui dénonce la consanguinité des élites politiques, économiques et médiatiques anglaises, toutes formées dans les mêmes écoles, Oxford et Cambridge en l'occurrence. Ça m'a dit quelque chose, ça vous dit quelque chose sûrement, Marie-Caroline Missire. Cette polémique outre-Manche, évidemment, fait écho à nos débats français sur l'ouverture sociale des grandes écoles.
Oui, absolument, Louise. Et justement, on est aujourd'hui 14 ans après les premières conventions ZEP, vous vous en souvenez certainement, lancées par Sciences Po. Et une chercheuse, Annabelle Alouche, a étudié les dispositifs d'ouverture sociale de deux grandes écoles, l'ESSEC et Sciences Po, en les comparant au système anglo-saxon. Ces conclusions, je dois vous dire, sont assez inattendues, vous allez voir. Et elles interrogent en tout cas nos modèles de formation des élites. Annabelle Alouche, bonjour.
Bonjour.
Alors merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes maître de conférences en sociologie à l'Université d'Amiens et chercheuse associée à Sciences Po. Alors au vu de vos travaux que j'ai évoqués très rapidement et de votre thèse, l'ouverture sociale dans les grandes écoles 14 ans après, est-ce que ça marche ?
Oui, ça marche dans une certaine mesure. Pourquoi ? Tout d'abord, ça associe des acteurs éducatifs qui ne se parlaient pas auparavant. Les acteurs de l'éducation prioritaire et les grandes écoles. Et plus globalement, les acteurs des établissements sélectifs, classe prépa et grandes écoles. Ça marche aussi parce que ça a un effet, ça augmente finalement, et en l'occurrence en particulier pour le cas de Sciences Po, ça quand même augmente le nombre d'élèves issus de milieux populaires à l'intérieur de Sciences Po. Le problème étant que en parallèle, les promotions de Sciences Po augmentent. Donc le poids relatif des élèves de milieux populaires à Sciences Po, finalement, on reste relativement stable.
Donc la proportion n'a pas forcément évolué, celle des élèves de milieux défavorisés. En tout cas pour Sciences Po, c'est
absolument
ce que vous notez. Et pour le modèle ESSEC, donc vous avez comparé le modèle Sciences Po et le modèle ESSEC. Alors le modèle ESSEC, c'est une prépa, une grande école, pourquoi pas moi. C'est un modèle de tutorat qui est
absolument
un peu différent. Lequel est le plus performant, selon vous ?
Alors, pour moi, dans le débat public, on a tendance à vraiment opposer les deux, avec un système qui se réclame justement d'une formation au long cours pendant le lycée, le modèle ESSEC, pourquoi pas moi, qui a été ensuite exporté à d'autres grandes écoles, et le modèle Sciences Po, qui vise finalement à réformer le concours en proposant un troisième type de concours à des élèves issus d'établissements secondaires partenaires de Sciences Po, donc le modèle convention d'éducation prioritaire. On les oppose souvent dans le débat public, c'est notamment lié à la personnalité de Richard Descoings et la manière dont il s'est opposé à l'ancien directeur de l'ESSEC, Pierre Tapie. Or, ce qu'on voit sur le terrain, dans le cadre de nos recherches, c'est que les modèles sont finalement beaucoup plus complémentaires qu'opposés. Pourquoi complémentaires ? Parce qu'ils reposent sur le même postulat. On traite un individu, un bon élève issu de milieu populaire, plutôt qu'un établissement. Dans le cas de l'ESSEC, mais aussi dans le cas de Sciences Po.
Donc une approche centrée sur l'individu, c'est ce que...
Absolument. Une approche centrée sur l'individu et aussi sur la psychologie de l'individu, avec la notion d'autocensure qui devient absolument cruciale dans les deux cas.
Autocensure, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire la difficulté des élèves à se projeter dans l'enseignement supérieur sélectif. Donc l'ESSEC comme Sciences Po, le modèle ESSEC comme le modèle Sciences Po, vise finalement à mettre un terme à ces problèmes d'autocensure. Donc le même postulat. Ce qu'on voit aussi sur le terrain, et ce qui explique aussi le fait que je constate que finalement les dispositifs d'ouverture sociale fonctionnent comme un système, c'est que finalement ils ciblent les mêmes élèves dans les mêmes établissements. C'est-à-dire qu'un élève qui rentre dans le dispositif une grande école, pourquoi pas moi, de l'ESSEC ou de Polytechnique, qui finalement ressemble fortement à celui de l'ESSEC, est suivi par l'ESSEC ou par une autre grande école pendant 3 ans et peut rentrer, si son lycée également conventionné avec Sciences Po, peut finalement rentrer à Sciences Po par le biais des conventions d'éducation prioritaire. Donc finalement, les dispositifs fonctionnent vraiment en système.
Et les mêmes élèves postulent pour différents types de conventions. Ils peuvent postuler pour Sciences Po, pour l'ESSEC et pour ce
Alors,
type de dispositif.
Alors, la difficulté, justement, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que certains élèves, dans certains lycées, peuvent être confrontés ou peuvent avoir la possibilité de rentrer dans plusieurs dispositifs, simplement parce que leur lycée est conventionné avec plusieurs dispositifs de plusieurs grandes écoles, alors que certains autres lycées, en fait, finalement, sont moins touchés par ces dispositifs-là. Donc ça recrée finalement des inégalités entre les établissements, suivant la géographie, suivant le fonctionnement de l'académie, etc., etc.
Alors, il y a d'autres dispositifs qui ont été inventés, comme à Sciences Po Lille, où là, c'est davantage les établissements qui sont suivis. C'est ce que m'expliquait Pierre Mathieu dans des écoles, c'était fin juin dernier. Est-ce que vous les avez évalués? Est-ce que vous connaissez leurs effets?
Alors, non. Donc, je renvoie la balle à Pierre Mathieu, qui connaît bien son dispositif. En tout cas, de toute façon, c'est toujours le même système, encore une fois, de travail sur l'individu, un bon élève issu de milieu populaire, donc critères sociaux et critères scolaires, et travail sur l'autocensure et sur le projet académique et professionnel de l'élève. Dans tous les cas, c'est la même chose. C'est exactement la même chose aussi en Angleterre, alors que justement, comme le disait Monsieur Gauthier, on oppose souvent les systèmes anglais et les systèmes français en disant la France est très particulière, il y a des prépas, il y a des grandes écoles, ça ressemble à rien. D'autres en Europe, en fait, on s'aperçoit qu'on se confronte exactement au même problème qu'en France en termes d'inégalité sociale d'accès aux grandes écoles et en termes finalement de mobilité sociale des milieux populaires.
Alors justement, vous en Angleterre, la Grande-Bretagne a choisi d'imposer des contraintes financières aux écoles et aux établissements pour les contraindre à s'ouvrir socialement. Est-ce que ce type de mesure contraignante serait applicable en France et transposable?
Alors, en théorie, oui. Le problème étant que un certain nombre de grandes écoles sont en fait des grandes écoles privées, repose sur un budget qui ne dépend pas de l'État. Donc il faudrait éventuellement créer une forme d'amende pour ces grandes écoles qui n'arriveraient pas à atteindre des taux proportion d'élèves issus de milieux populaires suffisants suivant un ratio éventuellement défini a priori. La difficulté pour l'État et pour le développement de ces contraintes est double. C'est déjà une difficulté liée simplement au personnel politique. C'est souvent personnel politique et politico-administratif sont évidemment souvent issus de ces grandes écoles.
Donc même bilan qu'en France que ce qu'a montré le rapport anglais.
Tout à fait. Première difficulté. Et deuxième difficulté, sur la contrainte financière, mais aussi une contrainte symbolique qui viserait à taper, si j'ose dire, sur la réputation des écoles, c'est aussi que le système des grandes écoles et des classes prépa est un système qui fonctionne, ou du moins qui est réputé fonctionner, et notamment dans le cadre des classements, c'est toujours les grandes écoles françaises, en tout cas, qui apparaissent dans les classements internationaux. D'où la difficulté, finalement, de contraindre, ou la réticence du personnel politique à contraindre de manière trop appuyée les grandes écoles.
Mais il y a un développement qui pourrait ne pas venir de la contrainte, c'est la formidable publicité qu'apporte aux écoles la mise en place de ce genre de dispositif. Richard Descoings en avait fait la démonstration avec Sciences Po, et quelle démonstration! Et c'est peut-être pour ça que tout le monde lui a emboîté le pas.
Alors oui, absolument. Donc, comme je l'ai dit, là, en Angleterre, ce qui est très intéressant, c'est que la contrainte est non seulement financière, mais aussi symbolique.
Est-ce qu'on vous en a parlé en France de cet avantage symbolique à s'ouvrir aux classes défavorisées, à tous les étudiants, pour le dire plus simplement?
Alors, il y a un avantage symbolique pour les grandes écoles, évidemment, en termes de publicité et qui peut avoir, qui a un effet donc positif pour les grandes écoles, pour les institutions, mais aussi éventuellement un effet positif dans la mesure où elle touche un public beaucoup plus large, et notamment en termes de candidats au concours. Le candidat au concours entend parler de l'ouverture sociale à Sciences Po en fait, sur France 2, à la télé, sur votre antenne, à la radio, etc.
Surtout sur notre antenne.
Absolument. Alors qu'il n'a peut-être jamais entendu parler de Sciences Po par ailleurs. Donc c'est une forme de publicité. Après, sur le terrain, encore une fois, dans le cadre des recherches, difficile de prouver que cette publicité-là a des effets bénéfiques en fait, sur la nature des candidats, l'origine sociale des candidats à Sciences Po, à l'ESSEC, à Polytechnique ou dans toutes les autres grandes écoles.
Alors une dernière question rapidement. Il y a un point intéressant dans votre recherche, c'est que vous montrez que les étudiants issus de ces types de dispositifs ont des formes de sociabilité tout à fait différentes des autres étudiants qui finissent par les pénaliser en bout de chaîne.
Alors, totalement différentes, je ne dirais pas ça. Mais en tout cas, ils jouent moins le jeu du réseau et ils jouent moins le jeu en particulier du milieu associatif. Ils ont tendance à avoir plus de réticence à s'inscrire dans un investissement associatif qui peut éventuellement les pénaliser. Ils ne le font pas. Pourquoi ? Parce qu'ils croient notamment à l'authenticité déjà des relations sociales et qui n'associent pas justement avec le milieu associatif. Et ils ont aussi beaucoup de difficultés à jouer en fait sur un terrain, celui de l'association, qui est... qui a un socle en fait pédagogique pour autre chose que les formes académiques classiques, c'est-à-dire que c'est des étudiants qui croient beaucoup à la méritocratie, les formes traditionnelles de méritocratie via la dissertation, les exercices écrits. Donc l'association est un peu dichotomique et un peu en disjonction avec leurs croyances académiques.
Et des habitus très différents.
Absolument.
Pour reprendre un terme sociologique.
Tout à fait.
Merci beaucoup Annabelle Alouche, merci beaucoup Marie-Caroline Missire.
Merci à vous.
La semaine prochaine pour Grand Amphi à 15h50.